Bonjour à toutes. Hein. Je vois qu'il n'y a même pas de garçons dans cette assemblée.
Mais c'est vrai, il n'y a jamais de garçons. Et moi, quand je signe à des garçons, c'est pour leurs femmes. C'est vrai, il y a quand même une population de lectrices, on va dire. Le lecteur français est une lectrice.
Ouais. Bon. Heureusement qu'on est là, les filles. Donc, Romain Portolas, déjà, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui.
Mais moi aussi, merci pour l'invitation.
Avec plaisir. Vous êtes l'auteur donc déjà de plusieurs livres, donc on en a déjà parlé un peu entre nous, L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, La petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel, Revive l'empereur et Tout un été sans Facebook, donc chez la dilettante et ensuite chez le livre de poche, et on vous reçoit aujourd'hui donc pour un détective très 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 spécial, publié à La Joie de lire. Est-ce que vous pourriez déjà commencer par nous présenter un peu ce livre, nous résumer en quelques mots?
Oui, le détective très multiplié par trois spécial, on va dire, comme ça c'est plus facile, c'est l'histoire de Gaspard. Gaspard est un jeune homme d'une trentaine d'années qui est atteint de trisomie 21. Il vit dans un monde de fantaisie, un monde qu'il s'est inventé. Il adore Internet et il construit ce qu'il appelle l'Internet en papier, au cas où un jour il y a un grand bug numérique mondial. Imaginez que du jour au lendemain, il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus de Google, il n'y a plus rien. Tout ce qui fait partie de l'encyclopédie universelle qu'on peut retrouver sur la toile. Et donc, il écrit sur des carnets, un carnet rouge, un carnet orange, un carnet vert. Et il exerce deux professions. Le matin, il vend des souvenirs dans un magasin de Montmartre pour les touristes. Et puis l'après-midi, il est renifleur des selles, qui est un métier qui existe réellement, je le dis, voilà, pour les marques de déodorants. Et puis un jour, grand malheur, il perd du jour au lendemain ses deux professions et ça va lui donner l'opportunité de se lancer dans une nouvelle profession qui est celle qu'il a toujours voulu exercer, qui est celle de détective privé. Et voilà, et c'est là que commence le policier en soi.
Et est-ce qu'on pourrait parler un peu plus de Gaspard? Est-ce que vous pourriez nous présenter un peu sa situation familiale, notamment?
Oui, alors Gaspard, bon, il vit toujours chez ses parents, il a une trentaine d'années, parce qu'il a des parents qui sont très protecteurs. Mais lui, il tient absolument à travailler, à s'intégrer dans la société, ne pas être vu comme un marginal, comme quelqu'un de différent, même s'il a la trisomie 21. Et c'est sa mentalité à lui, une mentalité de personne qui lutte pour s'intégrer, pour effacer, on va dire, les différences, pour être comme tout le monde. Ça, c'était très important. C'est, je pense, un petit message de tolérance que je veux passer par là, qu'on pourrait, de manière métaphorique, rassembler dans d'autres choses, de personnes qui se sentent différentes pour telle ou telle chose, pour une couleur de peau, pour quoi que ce soit, et qui font toujours peut-être un petit effort supplémentaire pour... ou qui doivent, ou qui ont l'obligation, qui se sentent des fois l'obligation de faire quelque chose de supplémentaire pour être comme les autres, alors que non, je pense que tout le monde est pareil, on est tous différents, et à la fin on est tous pareils. Voilà, c'est une question d'individualité. Et Gaspard, voilà, il a beaucoup d'énergie, beaucoup de fantaisie. Alors vous allez voir dans ce livre, on est à travers la première personne, on vit à la place de Gaspard, on voit la réalité à travers ses yeux, on voit le monde dans lequel il vit et dans lequel il évolue. Voilà, plein de fantaisie.
Et justement, plein de fantaisie, Gaspard est très fantasque, il a des rêves un peu fous quand même. Moi je pense au moonwalk, est-ce que tu peux nous parler un peu du moonwalk?
Le moonwalk... Ben en fait, oui, tout le monde connaît le moonwalk. Vous connaissez le moonwalk? C'est intéressant de savoir si les très jeunes maintenant connaissent le moonwalk. Ouais, c'est un pas de danse, hein, vous savez. On a tous vu Michael Jackson l'exécuter quand il marche en arrière comme ça. En fait, ce pas de danse n'a pas été inventé par Michael Jackson. Tout le monde pense que c'est lui parce que c'est vrai qu'on n'a vu que lui le faire. Or, c'est quelque chose d'assez vieux. Hein. On retrouve des origines au mime Marceau. Alors, ce n'est pas les mêmes pas, mais lui, le mime-marceau le fait vers l'avant, alors que Michael Jackson le fait vers l'arrière. Bon, j'ai vu plein de vidéos comme ça, c'est assez intéressant. Et donc lui, il adore toutes les anecdotes, tout ça. Donc il adore cette espèce de pas de danse. Il veut retrouver l'origine de ça. Donc il cherche sur Internet. Et ça donne pied à trouver plein d'autres choses aussi. La différence de poids qu'il peut y avoir entre l'Australie et l'Europe. Il y a des expériences scientifiques qui ont été faites dessus. On est plus léger en Australie. Voilà. Donc pour les personnes qui se sentent un petit peu grosses ou un petit peu avec du poids, ben, vous pouvez aller en Australie si vous voulez. Alors c'est quelques grammes hein, seulement.
Mais il est persuadé, en fait, Gaspard, que finalement, ça l'aiderait à exécuter le moonwalk qu'il n'arrive pas à faire
Voilà,
en France.
c'est ça.
Voilà. Donc il a un rêve, voilà,
Celui
parmi
d'aller
tant
en
d'autres,
Australie.
celui d'aller en Australie pour pouvoir réaliser le fameux moonwalk.
Ouais.
Donc c'est un personnage très fantasque, mais qui, donc, vous l'avez dit, est atteint de trisomie 21. Alors, vous avez déjà dû vous renseigner énormément sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous présenter vraiment en quelques lignes quelles grandes caractéristiques de la trisomie 21?
Voilà, trisomie 21, on va abréger parce que ce n'est pas un cours dessus, mais il y a deux grands traits. C'est d'abord des traits physiques et puis après des traits intellectuels. Traits physiques, ça se. Il y a des yeux un petit peu bridés. C'est le style mongolien, c'est pour ça qu'on appelait le style mongolien, comme les Mongols qui ont les yeux un petit peu bridés. Une nuque qui est un petit peu plus épaisse. Il y a des traits comme ça, un effet de anti-vieillissement, on va dire, parce que c'est des personnes qui ne marquent pas trop le vieillissement sur elles. Et puis après, le trait intellectuel, il y a effectivement une déficience mental. Et il y a quelque chose qui moi m'avait toujours que j'avais toujours aimé, c'est cette espèce d'enfance perpétuelle, une espèce de syndrome de Peter Pan, on va dire, des personnes qui alors c'est toujours à plus ou moins degré, hein. Il y a beaucoup de degrés dans la trisomie 21. Il y a des personnes qui sont très atteintes, qui ont de gros déficits intellectuels, et d'autres personnes qui ont un handicap plus léger. Mais il y a une espèce de jeunesse en fait qui ne finit pas, et ça je trouve que c'est beau, des personnes qui ont un certain âge mais qui sont toujours restées jeunes. Voilà. Et Gaspard fait partie de ces personnes-là, une personne qui n'a pas vieilli. Et c'est pour ça que même si c'est un adulte, même s'il a une trentaine d'années, c'est un livre qui est pour les jeunes parce que lui est resté jeune, est resté ado dans sa tête. Voilà.
Et pourquoi avoir choisi de parler de cette thématique en particulier? Parce que c'est un prétexte pour aborder d'autres questions.
Oui, il y a ce thème-là. Je ne sais jamais comment je choisis les thèmes. Déjà, dans La Petite Fille, j'avais abordé le thème de la mucoviscidose. On me demande toujours si dans mon entourage, j'ai des personnes qui sont atteintes de mucoviscidose. Non. On me demande toujours si dans mon environnement, j'ai des personnes qui ont la trisomie 21. Non. Je sais pas, c'est des choses qui me viennent à l'esprit comme ça. C'est très difficile pour moi de dire d'où viennent mes idées. Parce que c'est d'un coup, je suis pris par cette idée-là. Et ensuite, je me renseigne sur ça. Mais il y a effectivement, comme vous disiez, une espèce de métaphore à chaque fois, puisque pour moi, plus qu'une maladie en particulier, ça représente un ensemble de choses qui peuvent être vues comme la maladie, ou qui peuvent être vues comme la différence, ou qui, voilà, ça englobe un peu. Voilà.
Oui, puisque donc vous l'avez dit, ce qui est central à la trisomie 21, c'est cette âme d'enfant en fait qui
Ouais.
reste et qui, je pense, vous permet aussi d'aborder des questions profondes, notamment la question de la tolérance. Vous l'avez évoqué tout à l'heure et moi je voulais citer ce monsieur Gaulois, le monsieur Gaulois qui l'illustre parfaitement, je trouve. Monsieur Gaulois, c'est l'adjoint et ensuite le successeur de monsieur Déséaules, qui est le patron en fait de cette boîte qui tient des déodorants et pour qui il travaille en tant que renifleur d'aisselle. Voilà. Et en fait, ce monsieur Gaulois, Gaspard, il ne l'aime pas du tout puisque c'est quelqu'un qui a peur des gens qui sont différents. Donc c'est ce qui est dit, hein, c'est ce que vous dites dans votre livre. Oui, voilà, il a toujours rêvé d'être chanteur, mais il a la voix d'un enfant de 4 ans, il nous déteste, et moi plus que tous ici, il a peur des gens différents. Donc pour moi, ça a été en fait ce que j'ai compris dans ce syndrome en fait, donc que vous traitez, pour moi c'est un prétexte en fait pour aborder vraiment ces questions qui nous tiennent un peu plus à cœur, qui sont vraiment difficiles.
Qui est la différence, voilà,
Ouais.
c'est ça, oui. Il n'aime pas les personnes différentes, c'est quelque chose qui est, chez l'être humain, quelque chose d'assez développé. Je pense que ça revient, il faut remonter aux origines animales peut-être, mais il y a, dès que quelqu'un est différent, il y a une peur, non? Il y a la peur de l'inconnu. Et je pense qu'il faut toujours aller au-delà de ça. Et justement, quand on ne connaît pas quelque chose, moi je pense que la meilleure des choses, c'est de connaître, voilà, c'est de se renseigner et de connaître. Pas avoir la peur de l'inconnu. Et je pense qu'il y a une grande richesse à ce qu'on soit justement tous différents. On fait tous partie de la même race, qui est la race humaine. Moi, je pense qu'il y a une race. On a fait des choses, on a dit qu'il y avait des races, machin. Non, je pense, moi, qu'il n'y en a qu'une seule, c'est la race humaine. Et il y a plein de différences, elle est justement faite de plein de différences. Et ça, c'est joli. C'est ce que j'essaye, moi, d'inculquer à mes enfants, toute la différence, et d'être fier de sa différence. Voilà, c'est quelque chose, moi, que j'ai toujours aimé, les gens qui sont fiers d'avoir quelque chose en plus que les autres, de quelque chose de différent. Pas rentrer dans le moule, je trouve que ce n'est pas très intéressant d'entrer dans le moule. Et qu'il faut faire, il faut essayer de toujours trouver cette différence. Moi, par exemple, pour vous citer le cas, et c'est marrant parce que dans la jeunesse, il y a différentes étapes. Je trouve que quand on est enfant, on veut ressembler à tout le monde. Quand on a 6 ans, 7 ans, 8 ans, il y a une espèce d'assimilation, on veut être comme tout le monde. Et puis, il y a un passage qui s'appelle l'adolescence, et d'un coup, on devient un petit peu rebelle et on cherche ce qui est différent des autres. Moi, j'ai eu ce truc où je me suis dit, alors moi, qu'est-ce que j'ai de différent des autres et en quoi je peux me démarquer? Moi, j'avais l'espagnol, mon grand-père était d'origine espagnole, et d'un coup, je me suis dit, ah ben oui, mais moi, j'ai l'espagnol. Et donc, je me suis mis en un mois à apprendre l'espagnol, et je regardais la télé en espagnol à la maison, tout ça. Après, je parlais à mon grand-père. À la maison, c'était très tabou de parler espagnol, mais bon, en cachette, je parlais avec lui. Et je me disais, voilà, Puertolas, c'était le nom, j'aimais pas mon nom avant, hein, parce que c'était toujours écorché, c'était horrible, on m'appelait de toutes les manières possibles. Et d'un coup, eh ben, j'avais trouvé cette petite différence qui me faisait m'accepter, qui me faisait aimer cette différence, qui était d'être espagnol et que je pouvais parler à mes copains en espagnol sans que les autres nous comprennent. On avait un petit groupe d'enfants issus de l'immigration espagnole, on va dire. Et voilà, je trouve que c'est ça qui est nécessaire, de trouver son petit truc différent et de l'exploiter au lieu de le cacher, au lieu de l'enfouir dans soi-même. Et c'est
Mais
ça qui fait qu'on sort du lot après aussi.
et c'est ce que dit d'ailleurs Gaspard assez rapidement, c'est-à-dire que lorsqu'il perd donc ses deux emplois et qu'il devient détective privé, il se dit que et que voilà, il se voit confier une mission en fait dans un asile psychiatrique et là se dit, eh bien, mon handicap devient un atout, une qualité. Et ça, c'est une réflexion que j'ai trouvée hyper intéressante en fait. C'est que la différence effectivement devient un atout.
Exactement, c'est ça. Il suffit de savoir où la placer. Dans le monde, en fait, dans lequel il évolue, on va dire, il est le différent, hein, parce que dans la rue, ben, il y a plus de personnes qui n'ont pas la trisomie que de personnes qui ont la trisomie 21. Donc, du coup, c'est lui qu'on voit. Mais, d'un coup, dans un centre d'éducation spécialisé, super, il a trouvé la couverture parfaite, qu'on ne pourra jamais soupçonner, en plus, parce qu'on peut pas se déguiser. Et il parle des aveugles, il dit, on peut faire croire qu'on est aveugle, non? Il suffit de mettre des lunettes de soleil, mais il dit, on peut pas simuler, on ne peut pas feindre d'être trisomique 21. Ou alors, il faudrait développer des choses au niveau physique, en latex, enfin voilà, mais je veux dire, c'est pas très évident. Donc il a trouvé la couverture parfaite pour intégrer ce centre d'éducation spécialisé, et il devient finalement comme tout le monde, mais là aussi, il n'est pas comme tout le monde. Il
C'est
est
rigolo.
différent puisqu'il a cette chose qu'il est là pour enquêter et personne ne sait qu'il est là pour enquêter. Donc il est toujours différent d'où il est en fait.
Oui, effectivement, puisqu'en fait, arrivé dans cet asile psychiatrique, Gaspard se dit, bon, effectivement, c'est la meilleure couverture du monde, je suis trisomique, personne ne va me traquer ou quoi,
Soupçonné, ouais.
ou me soupçonner. Et pour autant, il n'arrive pas à s'intégrer, il se sent très différent des autres, en fait, malades. Donc c'est ça qui était hyper intéressant, c'est-à-dire que cette différence, elle se manifeste dans le monde en fait quotidien, mais aussi dans cet asile psychiatrique où il ne se sent pas encore à sa place.
Oui, mais en fait, il est entré dans cet asile, on va dire par jeu, c'est-à-dire en disant, ah, t'as vu, moi je suis le détective privé, je vais enquêter, personne ne va me soupçonner, tout ça. Et puis d'un coup, il se heurte à la réalité d'un centre d'éducation spécialisé où il y a différentes sortes de handicaps, plus ou moins lourds. Et là, il les regarde tous, il se dit, mais moi je ne suis pas comme lui, moi je ne suis pas ça, mais moi je suis normal. Et il a un autre regard d'un coup. Et puis surtout, il voit qu'il est dans un centre d'éducation spécialisé, qui est une espèce de... D'un coup, il voit ça comme une prison. Ces gens-là sont enfermés là. Et il dit, et moi, j'ai de la chance, parce que moi, je vis chez moi, dans une maison, avec mon père, ma mère, une famille normale. Ils ne m'ont jamais mis dans un centre comme ça. Mmh. Moi, je viens de dehors, je suis là juste pour une enquête. Et voilà, c'est ce heurt avec la réalité qui va être très dur pour lui.
Et est-ce qu'il n'y a pas une volonté justement derrière d'évoquer la situation des asiles psychiatriques, de dénoncer ou pas du tout?
Alors, c'est compliqué, mais là aussi, le message, c'est aussi un message d'intégration pour moi. Je me rappelle quand j'étais petit à Valence, quand j'étais à l'école, à la cantine, on était mélangé avec un centre de personnes handicapées. On avait des petits qui venaient, qui étaient sur chaise roulante et qui venaient manger avec nous à la cantine. Et je trouve que c'est bien de mélanger comme ça. Des fois, on ne veut pas mélanger parce qu'on dit il faut que les gens qui ont pas de maladie soient ensemble, ceux qui ont des handicaps, il faut qu'ils soient traités d'une certaine manière. Et je trouve que des fois, c'est important que les jeunes, déjà au plus jeune âge, pour justement qu'il y ait ce message de tolérance, de non-différence entre les gens, qu'on soit mélangés. Je trouve que c'est très important. Mmh. Et pour ceux qui ne sont pas malades, parce que d'un coup, ils apprennent à tolérer les autres. Mmh. Et pour ceux qui sont malades, et qui d'un coup sont intégrés dans une société normale et pas qu'avec des gens qui sont comme eux. Voilà, je trouve que c'est terrible.
Et il y a d'ailleurs une chose que Gaspard déplore beaucoup, c'est que son entourage le traite comme un enfant. C'est-à-dire que ses parents le maternent énormément, mais ses collègues aussi le maternent énormément. Ils sont toujours derrière lui, aux petits soins, à s'inquiéter pour lui. Et il en a marre, en fait, d'être considéré comme un enfant.
Oui. Il y a beaucoup de dérision là-dessus, et lui, il a beaucoup d'autodérision, c'est-à-dire qu'il est conscient de son handicap, il sait qu'il a une déficience intellectuelle, il parle de son QI de moineau de temps en temps, surtout quand il faut faire l'énigme d'Einstein, qui est une énigme qui est censée mesurer le QI. Donc il est conscient de tout ça, et il aborde avec beaucoup d'autodérision. Je pense que c'est toujours très important de faire de l'autodérision. Ça, c'est beaucoup plus constructif de se moquer de soi-même, de connaître ses défauts, de connaître ses qualités, et d'en rire. Voilà. Je trouve que c'est important, et c'est ce qu'il fait. Il sait qu'il a ça, mais il veut quand même être indépendant. Mais sa mère est très maternelle pour le coup, très protectrice. Elle veut le garder à la maison, et voilà. Son père, lui, est un peu plus relâché. Je ne sais pas si c'est quelque chose. Nous, les pères, j'ai l'impression qu'on est un peu plus relâché que les femmes. Les mamans sont très comme ça, et les disent, oh, mais c'est pas grave, tu vas voir, il est tombé, mais il a rien et tout ça. Et là, c'est exactement le cas. Et lui veut partir en Australie, mais bon, on va pas le laisser partir en Australie comme ça.
Peut-être. On a une once d'espoir à la fin. Pour moi, ce livre aussi a une autre fonction, c'est de détricoter un petit peu tous les stéréotypes, toutes les idées reçues que l'on a sur la trisomie. Parce qu'en fait, on a cette idée de ce QI réduit et de ces différences physiques. Mais finalement, Gaspard, il est très indépendant. Il a quand même deux emplois. Bon, il renifleur des selles, c'est pas banal, mais il a quand même au moins deux emplois. Il vit en autonomie. Il lit beaucoup. Il est très curieux. Il va sur Internet de papier. Donc j'ai l'impression qu'on détricote vraiment tous les clichés.
Oui, parce que les clichés, il y a toujours une once de vérité dans les clichés, hein, sinon ils n'existeraient pas. Mais il y a toujours une différence entre les gens. Il y a toujours ce terme d'individualité, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais généraliser parce que tout le monde est tellement différent. Et effectivement, lui, il est... Dans la trisomie 21, il y a des gens qui sont allés très loin. Il y en a qui ont eu des handicaps un peu plus lourds et qui ne sont pas allés aussi loin. Mais il y a des acteurs, il y en a qui vont à l'université. C'est sur ça que je voulais insister. C'était sur le fait de...
D'ailleurs, son jeu préféré, c'est quand même le Trial Poursuite.
Le Trial Poursuite, ouais. C'est merveilleux, le Trial Poursuite. Vous jouez au Trial Poursuite? Non, on ne joue plus au Trial Poursuite. C'est très intéressant, le Trial Poursuite. Il faut beaucoup de culture générale sur des thèmes variés. Et c'est un peu ce qui est fait dans le livre. Vous avez beaucoup d'anecdotes sur des thèmes variés. Voilà. Sur le cinéma. On apprend un petit peu de tout sur tout.
Et moi, je voulais revenir un petit peu sur le métier quand même qu'il fait. Il est renifleur des selles. C'est pas banal.
Ouais. Ben non.
Où aller chercher ça? Parce qu'en plus, la particularité d'une personne atteinte de trisomie 21, c'est quand même qu'il y ait des difficultés olfactives, parce qu'il une atrophie.
Ouais.
Renifleur
oui, il y a une déficience
ouais.
olfactive. Et justement, je suis allé à l'encontre de ça.
Ouais.
Et on comprend pourquoi, à la fin, on comprend pourquoi. Mais effectivement, lui, ben, il a un odorat exceptionnel. Et il va l'utiliser justement pour cette profession-là. Je ne connaissais pas cette profession, hein, je pense, et personne ne le connaît. D'ailleurs, tout le monde pense que j'ai inventé.
Oui.
Mais un jour, je suis tombé comme ça au hasard d'Internet. Je suis tombé là-dessus et j'ai commencé à fouiller un peu. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment des...
On se demande quelles recherches vous avez fait pour tomber là-dessus.
Ouais, mais des fois, c'est ça, la magie d'Internet, c'est que... En cherchant un reportage sur, je ne sais pas quoi, sur la tortue au Galapagos, vous pouvez tomber sur n'importe quoi.
Y compris sur un renifleur des sels.
Et si vous tombez sur un renifleur des sels à la fin, il n'y a aucune cohérence dans le cheminement. Et c'est ça qui est merveilleux, on faisait pareil avant avec les dictionnaires. Les dictionnaires ouverts, et vous cherchiez une définition et là, vous disiez, ben, c'est ça. Et donc, vous étiez obligé de chercher la définition du mot qu'il y avait dans les définitions et donc vous alliez... Voilà. Où vous regardiez ce qu'il y avait sur les autres pages, la page d'à côté, ou le mot d'avant, le mot d'après. Ben, en fait, Internet, je trouve que c'est ça. Moi, je suis à faveur, je trouve que c'est une très bonne chose, Internet. Effectivement, il y a toujours des côtés négatifs, comme tout, ça dépend des usages qu'on en fait. Mais sinon, c'est merveilleux d'avoir une encyclopédie immédiate et immense. C'est l'une des plus grandes.
Je crois que Gaspard est assez d'accord puisqu'il fait même un internet de papier.
Et oui, l'internet de papier au cas où il n'y ait plus l'internet numérique demain.
Où il consigne en fait toutes les choses qu'il a découvertes, les connaissances qui l'ont intéressé. Alors il a un code couleur par exemple.
Ouais.
Donc on a le vert pour les choses positives, le rouge pour les choses négatives et le orange pour les choses dont il ne sait pas trop quoi en faire.
Ouais.
Voilà. C'est le cas de l'énigme d'Einstein.
Oui, c'est pas si c'est positif ou négatif.
Voilà. Où il se retrouve confronté à cette fameuse énigme. Enfin, moi, j'ai essayé de la résoudre, je n'ai pas réussi.
Non.
Voilà,
je vous propose de la... Oui, de la vous cherchez sur Internet, vous mettez énigme Einstein. Et voilà. Alors, mettez pas la solution de suite, hein, sinon c'est pas intéressant. Mais allez-y, cherchez. Et si vous réussissez,
bon, vous verrez,
c'est très intéressant. En tout cas. Il l'a réussi.
Ouais. Gaspard a réussi.
Ouais, ouais. Il a réussi en très peu de temps.
Donc, on l'a dit, en fait, la trisomie 21, bon, ça fait partie des thèmes assez difficiles. Vous avez l'habitude d'aborder des thèmes difficiles. On parlait tout à l'heure de l'immigration qui est traitée dans l'extraordinaire fakir, le voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Pour la petite fille qui avait avalé un nuage grand comme la tour Eiffel, on parle de la mucoviscido. C'est toujours des sujets assez difficiles que vous traitez avec beaucoup d'humour.
Ouais.
Est-ce que c'est une manière justement de dédramatiser, d'aborder justement des sujets difficiles qu'on n'aborderait pas autrement?
Oui, c'est ça, c'est dédramatiser, c'est protéger, c'est se défendre contre quelque chose qui est vraiment dans lequel on se dit il n'y a rien de bon là-dedans et essayer d'en trouver la petite chose qui est positive dedans, voilà, s'il y en a. Mais en tout cas, essayer de le voir d'une autre façon, une façon un peu plus colorée, une façon différente, plus édulcorée, on va dire. Mm. C'est ce que je fais parce que j'aime pas trop. Je trouve que c'est pas. Vous allez dans un hôpital. Enfin, moi, j'ai horreur d'aller dans les hôpitaux. Je supporte pas. J'ai l'impression que c'est la mort, c'est la fin de tout, Et donc, j'essaye d'apporter beaucoup de couleurs là-dessus, à un autre regard, pour essayer. Je pense que c'est une manière de se défendre justement, pour pas tomber, on va dire. Et c'est très important de voir les choses avec de l'humour, avec de la fantaisie, ouais. Parce que c'est plus beau que des fois la réalité qui est très dure en fait. Ouais.
Et vous en savez quelque chose puisque vous travaillez dans la police?
Oui, j'ai travaillé dans la police. C'est l'endroit où dans lequel on voit les choses les plus déjà abjectes qu'est capable de commettre l'homme, l'humanité. Et puis on voit des personnes en détresse. Hein, voilà, c'est pas comme dans les séries, hein, c'est pas comme à la télévision. Hein. On va pas dans des villas de milliardaires avec des blondes pulpeuses, tout ça. Hein, ça existe pas. Ça existe pas. Nous, on fait des perquisitions dans des dans des trucs où faut enfiler des gants et des machins, parce que sinon tu chopes de tout, c'est crade, c'est voilà, c'est la misère humaine, c'est vraiment la misère humaine, et c'est vraiment ce qu'on ne voit pas à la télé. Voilà, il y a vraiment une image complètement faussée dans les séries ou au cinéma sur la police et sur ce qu'on peut voir. Voilà. Donc on voit des choses qui ne sont vraiment pas belles, et c'est pour ça qu'il faut toujours dédramatiser. Voilà. Il y a des services qui sont plus ou moins difficiles. Il y a des services très difficiles dans la police qui sont la brigade des mineurs, par exemple. C'est un des services les plus terribles, je pense. Surtout si vous avez des enfants vous-même. Et les collègues qui sont dans ces services-là, ils restent très peu de temps d'ailleurs. Et puis, ils dédramatisent à fond. Dans la police, on rigole énormément. On rigole énormément parce que c'est la manière de survivre.
Et donc
C'est
vous
ça.
transposez ça dans vos romans, finalement.
Et je mets ça dans mes romans, une certaine philosophie de vie. Ouais.
Est-ce que vous avez, c'est ce qui vous a inspiré? Est-ce que c'est votre métier qui vous a inspiré justement l'extraordinaire voyage du Fakir, parce que vous travaillez donc plutôt dans le service de l'immigration? Est-ce que c'est ce qui vous a inspiré pour celui-ci, pour le voyage du Fakir?
Ouais, pour le fakir, oui, évidemment. Si j'avais pas été dans le service dans lequel j'étais à ce moment-là, je l'aurais pas écrit de la même façon. Vous auriez pu enlever tout ce qui traitait de l'immigration illégale. On aurait enlevé la rencontre avec les Soudanais, on aurait enlevé énormément de choses. Je pense que je l'aurais écrit, mais d'une autre façon. Donc évidemment, j'ai mis dedans des anecdotes. Mais je ne pensais pas que ça allait être publié quand je l'ai écrit. C'était pour avoir un souvenir d'une tranche de ma vie, parce que j'ai exercé beaucoup de professions. Et je voulais la voir, la plasmer, l'immortaliser dans quelque chose. Et je me disais, quand je serai plus vieux, ben je relirai ça, je dirais, ah oui, j'avais vu ça quand j'étais dans la police. Donc ça, machin. Ça n'avait aucune vocation. D'ailleurs, il y a 2 ou 3 pages de secret défense, d'analyse que je faisais moi, où j'explique la route qu'utilisent les migrants depuis le Soudan jusqu'en France ou en Angleterre. Et c'est une analyse que j'avais faite moi au travail, et je l'ai mise dedans parce que je ne pensais pas que ça allait être publié. Et puis du jour au lendemain, c'est publié dans 50 pays. Et il y a trois feuilles de secret défense. Bah, c'est passé, c'est passé, c'est passé. J'ai été félicité par le directeur de la police aux frontières
Ouais. Vous
et
croyez
ensuite
qu'il
par
l'a
le
lu?
directeur national de la police nationale.
Il
Comment?
l'a peut-être pas lu, c'est pour ça qu'il vous a
Ben,
félicité.
peut-être, on ne sait jamais, oui, mais en tout cas, j'ai été. Voilà. Mais bon, c'est pas non plus l'invention de la rouge que je raconte. Hein. Voilà.
Donc, une question subsidiaire, c'est est-ce que vous avez travaillé à IKEA?
Non, pas du tout.
Alors, pourquoi IKEA? Pourquoi IKEA? On le retrouve dans le détective très 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 spécial, on le
Ouais.
retrouve dans le Fakir évidemment.
On retrouve
Pourquoi
dans
IKEA?
presque tous mes livres. Ben, la première fois, c'est
Ouais.
juste que j'avais une armoire IKEA dans ma chambre. Donc quand j'ai dit que je mettais le fakir dans une armoire, pour moi c'était évident que ce soit dans l'armoire de ma chambre qui était une armoire IKEA. Et c'est quelque chose qui a d'un coup transcendé, qui est devenu, bon c'était juste une armoire IKEA quoi. Et puis du jour au lendemain, ben, ça a eu le succès que ça a eu. IKEA s'est réveillé très tard. On avait vendu énormément de livres. Ils sont arrivés à la fin d'un coup, ils nous ont envoyé une lettre en disant, vous n'avez pas le droit d'utiliser le mot IKEA dans le titre. Faut changer les couleurs de la couverture. Faut voilà, plein de trucs. Faut enlever le logo. On avait un logo. Donc on a réussi quand même à garder le mot IKEA dedans et tout ça. Là, on a fait le film. Ils nous ont pas permis de tourner dans un IKEA. Il a fallu en reconstituer un. Et voilà, mais et donc c'est devenu chez moi comme une espèce de marque ironique de fabrique. Tout le monde me dit, oh, ils ont dû vous offrir des armoires et tout, j'en ai pas eu une seule. D'ailleurs, dans la suite du Fakir, là, le Fakir 2 qui sortira en mai, je le dédicace à Ingvar Kamprad, qui est le fondateur d'IKEA, en lui disant que j'attends toujours mon armoire. Mais
Montée ou pas l'armoire?
bon, c'est pas grave. Mais voilà, et donc ça fait partie maintenant du petit clin d'œil. Et donc effectivement, dans ce livre, j'ai ce petit clin d'œil et qui fait que
Dès la quatrième de
dès la quatrième de
couverture.
couverture, je parle du chromosome en plus de la trisomie 21 comme une vis ou une pièce qu'on retrouve en plus quand on monte une armoire. Voilà.
Ça sent le vécu.
Ça sent le vécu. Oui, tout le monde l'a
Ouais,
vécu, ça.
je crois. D'ailleurs, vous respectez même le code couleur, encore une fois, hein, pour
Ouais,
le
mais ça,
rouge.
ça a été, ouais, mais ça a été une coïncidence. Hein. Ça a été une coïncidence parce que généralement les badges de police sont jaunes,
Ouais.
donc ça aurait dû être jaune et puis avec je sais pas une autre couleur, mais finalement c'est tombé comme ça. Et de toute façon, moi j'adore le jaune, ça me fait penser au citron. Et le bleu, je trouve que ça va bien avec, c'est le ciel. Donc je pourrais même toutes mes couvertures en jaune et bleu.
Bah, vous êtes bien parti pour, hein. Voilà, il n'y a qu'un été sans Facebook où il y
Il y a du
a,
bleu.
ah, y a du bleu, mais il n'y a pas le jaune.
Il n'y a pas le jaune. Voilà.
Voilà.
Ouais.
Pour les prochains, vous saurez. Et donc, jusque-là, vous avez toujours écrit pour le public adulte, bien qu'on puisse dire que vos livres sont tout à fait accessibles, hein, pour un public adolescent. Mais là, c'est vraiment le premier ouvrage à destination des ados.
Là, c'était vraiment plus focalisé encore, vraiment, parce que mes livres sont tout public, on va dire. Hein, mais celui-là, c'était celui qui était le plus, qui visait le plus le public jeune. Je pense que c'est très important. Déjà, moi, de développer la lecture au niveau des jeunes. Moi, j'ai appris. Moi, j'ai lu très très jeune. Ça m'a changé la vie. La lecture, moi, m'a changé la vie. Elle fait partie de ma vie. C'est une autre existence. Comme disait, je sais plus quel. Philosophe ou écrivain, la littérature est. Enfin, j'ai pas assez avec ma vraie vie, il faut que j'en ai une autre, et c'est la littérature. Moi, c'est pareil, j'ai une autre vie. Et donc, je pense que c'est très important. J'essaye d'apporter ma petite pierre à l'édifice de ça, d'essayer d'attirer les jeunes vers la lecture, parce qu'ils ont tout à gagner avec la lecture. Et je pense qu'il y a d'autres choses qui sont très importantes aussi, hein, le numérique, tout ça, l'informatique, c'est très bien. Mais la lecture, c'est quelque chose qui permet aux enfants déjà de ne plus faire de fautes d'orthographe, parce que quand on lit énormément, on a des automatismes qui viennent. Si on a une mémoire photographique, on se dit, il y a un problème dans ce mot-là. Donc déjà, il y a ça, il y a les capacités de rédaction. Tout ça, c'est des choses qui sont très utiles à l'école, au lycée, à l'université. Je pense et dans quelle que soit la profession que vous exercez, les qualités de rédaction sont toujours très importantes. On vous juge sur la rédaction. Si vous envoyez votre CV à une entreprise et que vous l'accompagnez d'une lettre de présentation qui est mal rédigée, les gens vous jugent sur ça. Donc, je trouve que c'est très important. Et la lecture apporte ça. Et en même temps, elle apporte le rêve, elle apporte cette
Donc
autre
vous allez
vie-là.
remettre ça alors.
Donc je vais remettre ça, oui, effectivement.
Il y a des projets en cours?
Oui, j'ai déjà commencé un autre livre en parallèle de mes livres grand public, donc adultes, comme on dit. La suite du Fakir, la suite de. Il y a tout un univers sans Facebook aussi, voilà. Donc j'ai déjà ma ligne. Et à côté, en parallèle, j'ai un autre livre jeunesse. Voilà.
Très bien. Et moi, je voulais revenir aussi sur la présence des illustrations qui m'ont beaucoup interpellée en fait
Oui.
au cours de la lecture, notamment cette photo à la page 40 où c'est une jeune femme en fait dans Paris qui pointe du doigt un petit martien parce que Gaspard adore collectionner les petits martiens, donc il en prend des photos.
Ouais, ça s'appelle des Space Invaders.
Voilà,
Ça vient du.
j'ai gardé le terme martien.
Ouais, non, mais c'est très bien. D'ailleurs, moi, je parle de martien aussi. Mais voilà, le truc, c'est le Space Invaders qu'il y avait à l'époque, dans les années 80, on avait un jeu vidéo avec ces petits extraterrestres là. Et il y a un artiste français donc qui passe sa vie, au lieu de taguer, qui passe sa vie à faire des mosaïques. Comme ça, dans le monde entier. Alors maintenant, vous pouvez aller sur son site internet. J'ai vu c'est spaceinvaders.com ou je sais pas quoi, et il vous dit tous les lieux dans le monde où vous pouvez trouver un petit martien. Nous, on faisait ça à l'ancienne. On les cherchait dans les rues, on tombait dessus, on prenait des photos. Maintenant, il y a des applications pour les trouver directement. Et voilà. Mais c'est toujours mieux la surprise de tomber dessus.
Et du coup, ça fait partie de la grande activité de Gaspard, il adore ça. Et en fait, avec cette photo, c'est une vraie photo, on fait un lien entre la fiction et le réel.
Oui, effectivement, oui. Parce qu'en plus, cette photo, c'est ma femme qui pointe du doigt le martien. Et puis en plus, la légende dit qu'elle s'appelle Patricia et vient de Grenade. Ma femme s'appelle Patricia, elle vient de Grenade. Oh, coïncidence! Et c'est un mélange de. Voilà, j'aime beaucoup toujours mélanger la fiction et le réel, mettre des choses de ma vraie vie dedans, comme ça. Et donc là, vous avez ça.
Et puis tout au long aussi de la lecture, il y a vraiment voilà, le fameux
Il y a
rond
d'autres
parfait.
illustrations. Un rond parfait, parce que moi, ça m'avait toujours étonné. À l'époque, parce que maintenant, je ne sais plus comment ça marche, mais à l'époque, on avait des tableaux noirs avec des craies, et j'avais un professeur qui faisait des ronds parfaits. C'était un professeur de mathématiques et il dessinait donc le rond au tableau et c'était un rond parfait. Et très peu de personnes sont capables de réaliser à main levée, en plus sur un tableau comme ça, un super rond. Donc j'en parle.
Voilà. Tout le monde en rentrant chez soi ce soir va s'essayer à faire un rond parfait.
Essayer de faire, voilà, de tracer un cercle, comme on dit, à main levée.
Et moi, j'ai une dernière question avant vos questions à vous. J'ai noté qu'il y avait une grande place à l'imagination dans ce livre, puisque voilà, la situation, donc même si Gaspard le vit très bien sa trisomie, c'est quand même une situation relativement difficile. Et pour autant, il passe son temps à s'échapper dans tout ce qu'il trouve comme anecdote sur Internet, mais aussi dans ses lectures. C'est un grand, grand, grand lecteur. Donc j'ai l'impression qu'en fait, l'imagination constitue une espèce d'échappatoire, en fait.
Oui, l'imaginaire et l'échappatoire, c'est la liberté en toutes circonstances. C'est le fait de ne pas être là, tout en étant là. C'est-à-dire que physiquement, on peut être dans un endroit qui n'est pas forcément charmant, et vous ouvrez un livre et vous êtes... Vous vivez une aventure merveilleuse, voilà. Et là aussi, c'est encore ma passion et mon amour pour la lecture, pour la littérature, pour les histoires. On va dire que en France, il y a plusieurs écoles. Hein. La France est connue comme le pays de la littérature très sérieuse, très complexe, voilà. Mais moi, je suis pour l'autre type de littérature. Je suis pour la littérature d'évasion, d'exotisme, d'aventure, pour l'histoire. Voilà. Il y a des livres qui sont très bien écrits, et puis à la fin, je me dis, mais c'est quoi l'histoire ? Il n'y en a pas. Et puis, il y a d'autres livres dans lesquels on a vraiment toute une histoire. Voilà. Et moi, je porte mon intérêt sur l'histoire. Donc voilà, je suis un raconteur d'histoire, on va dire.
Ah, mais ça devient vraiment presque une question de survie à un moment donné pour Gaspard.
Oui. Je pense que c'est une question de survie des fois pour des personnes qui refusent un petit peu la réalité, qui ont une réalité qui est très dure et donc ils ont cette voie, cet échappatoire qui est justement la lecture et l'imaginaire. Et lui, c'est ça qu'il a développé depuis tout petit, cet imaginaire. Et on apprend en quoi c'est très important à la fin.
À la fin, mais on va pas parler de la fin.
Non. Enfin, il y a une grosse surprise.
Il y a une grosse surprise.
Il y a une très grosse surprise à la fin.
Tous les lecteurs, ceux qui ont déjà lu, se sont laissés surprendre par le dernier chapitre. Moi, la première. Je pense que vous êtes beaucoup amusé à écrire la fin.
Oui. Je m'amuse beaucoup à écrire les fins. Ouais. C'est vrai. Pour moi, un roman, à la fin, il doit y avoir quelque chose comme une chute. C'est comme les nouvelles. J'écris beaucoup de nouvelles là pour les Restos du Cœur. Ça sort en novembre, il y en a une. On me demande d'écrire beaucoup de nouvelles. Une nouvelle, c'est vraiment une petite histoire de quelques pages dans laquelle, pour moi, il y a forcément une chute. Voilà. Et dans mes romans, c'est ce que j'essaye de faire à plus grande échelle. Voilà. Et j'aime beaucoup les fins d'un coup où on reste un petit peu scotché. Moi, ça m'étonne toujours parce que j'ai jamais cette idée de fin au début. Et la fin m'arrive comme ça, justement, vers la fin, j'ai cette idée et je me dis, c'est cette fin que je veux pour le livre.
Vous aviez pensé à cette fin dès le début ou pas du tout ?
Non, justement, non. Je ne pense jamais à la fin. Non, je pense pas à ça. Et elle arrive comme d'elle-même. Tac, 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 elle fait toc, toc, toc. Elle dit, bonjour, je suis la fin. Et à chaque fois, elle arrive à me séduire et donc...
Elle nous a séduite. Enfin, moi, elle m'a séduite parce que je me suis vraiment laissée avoir complètement... Donc lisez-le et vous me direz ce que vous pensez de la fin.
Et puis c'est un policier. Policier, il y a forcément la fin, il y a forcément quelque chose à la fin. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour être venu.
Merci à vous d'être venu. C'était un plaisir de dîner avec vous et d'échanger avec vous sur votre dernier livre. Et on vous attend pour le suivant.
Bien sûr. En mai. Voilà, en mai. Le suivant, c'est en mai. Et c'est pour tout public et c'est l'histoire d'un fakir. Ouais. Encore.